la science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Mon appareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes à bord de La Science s'amuse, le magazine scientifique de Divergence FM qui navigue sous le pavillon de l'Université de Montpellier. Alors je ne sais pas pour vous, mais je ne vous cache pas qu'ici la semaine a commencé très mal. C'était pourtant à prévoir, mais voilà, à force de tirer sur nos réserves sans anticiper l'avenir, voilà que nous nous sommes retrouvés sans la moindre goutte d'eau à bord. Panique chez les passagers, colère dans l'équipage, bref, nous avons frôlé la mutinerie. Et si nous en sommes sortis cette fois, c'est grâce à la présence dans nos rangs de spécialistes de la reuse, autrement dit la réutilisation des eaux usées. Notre invitée du jour est une de ces spécialistes. Elle est chercheuse à l'Institut européen des membranes et ses travaux nous rappellent que face à la pénurie d'eau mondiale qui se profile, nous sommes bel et bien tous dans la même galère. Julie Mandré, bonjour.
Bonjour.
Avec moi, comme chaque semaine, pour vous abreuver de questions, Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour Lucie. Bonjour Julie.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, nous retrouverons notre séquence reportage en salle des machines. Et nous partons à Supagro, où Benjamin Perret, directeur de recherche CNRS, nous ouvre les portes de ses chambres de culture. Enfin, Amrine nous parlera quinoa dans sa chronique Les Vedettes. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors Julie Mandré, on va parler pendant cette interview de la réutilisation des eaux usées. Mais avant de commencer, peut-être que vous pouvez nous préciser justement de quoi on parle quand on parle d'eau usée.
Alors généralement, on parle des eaux usées domestiques, donc celles issues d'habitations. Mais ça peut être aussi des eaux usées industrielles, donc issues de l'industrie. Elles peuvent être raccordées et traitées, acheminées dans le même réseau ou non, suivant la toxicité des effluents industriels. Et on peut aussi avoir les eaux pluviales qui viennent aussi se raccorder si on a ce qu'on appelle un réseau unitaire où les eaux pluviales et les eaux domestiques sont mélangées.
C'est le cas à Montpellier, justement, je crois.
Oui.
Et donc le circuit des eaux usées, il consiste en quoi ? Elles vont dans la station d'épuration et après ?
Oui, alors elles vont dans ce qu'on appelle une STEP, donc une station d'épuration des eaux usées, où elles vont subir un traitement au fil d'une filière de traitement assez classique. Et ensuite, elles sont rejetées en général dans l'environnement, puisque souvent ces stations sont proches d'une source d'eau.
Et, ce traitement classique dont vous parlez, il consiste en quoi ? Comment est-ce qu'on traite classiquement les eaux usées dans une station d'épuration ?
On a des pré-traitements un peu grossiers pour enlever les plus gros éléments. Ensuite, on va enlever les graisses, on va décanter pour éliminer tout ce qui se sépare par gravité, comme les sables. Et ensuite, le cœur du traitement, c'est un traitement biologique, souvent un traitement à boue activée. Et puis après, on va avoir des post-traitements, et voilà, c'est à peu près ça, la filière de traitement classique.
Et le fait de rejeter les eaux après traitement dans la nature, dans l'environnement, est-ce que ça peut poser un problème ?
Oui, bien sûr, on a mis en évidence ces dernières années la présence de micropolluants, qui sont souvent des perturbateurs endocriniens. Il y a pas mal d'études qui ont montré que ces micropolluants pouvaient avoir des effets sur la faune et la flore, et puis bien sûr, peut-être après sur la santé humaine, vu que c'est un cycle l'eau, hein, donc de toute façon, on la retrouve à un moment sur la chaîne de potabilisation.
Alors, donc si on parle de ce cycle-là, donc finalement, donc les eaux usées, elles partent en station d'épuration, on les traite, on les remet dans la nature, et finalement, après, on va retraiter encore des eaux pour pouvoir les rendre potables, c'est ça ?
Oui, on peut imaginer qu'à un moment donné, elles se retrouvent forcément dans la filière de potabilisation.
Donc la reuse, justement, donc si on revient sur ce sujet-là, concrètement, comment ça marche ? À quel moment est-ce qu'on peut les recapter, ces eaux ? En fait, on les remet pas dans la nature, ce serait,
oui,
ça le principe de la reuse.
C'est un peu le concept d'économie circulaire, mais appliqué au cycle de l'eau. Donc, c'est-à-dire que directement en sortie de station, on récupère les eaux pour un usage identifié. Donc, je peux vous parler un petit peu de ses usages, à moins que ce soit...
Si tu y es, allez-y.
Donc, le principal usage, c'est l'irrigation agricole et aussi l'arrosage des espaces verts. Voilà, avec différentes qualités d'eau suivant le type de culture et suivant que ces espaces verts soient ouverts au public ou non. Voilà.
D'accord. Donc l'intérêt, finalement, déjà, on pourrait dire économique, c'est que finalement, on ne retraite pas de l'eau pour la rendre utilisable pour les espaces verts.
Alors, ça dépend du niveau d'exigence, justement. Si c'est des cultures, par exemple, maraîchères de légumes destinés à être consommés crus, on va être obligé de rajouter ce qu'on appelle un traitement tertiaire, donc une étape de traitement supplémentaire par rapport à la chaîne de traitement classique. Donc ça implique quand même un coût supplémentaire. Après, si c'est un espace vert qui n'est pas forcément fréquenté, on peut prendre l'eau telle qu'elle. C'est pour ça qu'il y a actuellement, avec la réglementation française, il y a 4 classes de qualité d'eau qui nécessitent un traitement supplémentaire ou non, suivant l'usage envisagé.
D'accord, on va y revenir justement sur cette régulation un petit peu plus tard, mais réglementation, pardon.
Et du coup, sur les traitements qui sont appliqués en station d'épuration pour l'instant, pour essayer de traiter ces eaux, est-ce qu'on est capable, parce que dans les agents polluants qu'on a cités, les perturbateurs endocriniens, les polluants émergents, quelle proportion de ces polluants on est capable d'éliminer en station d'épuration avant de rejeter l'eau dans l'environnement ?
Alors, certaines études récentes ont montré que quand même 80% environ de ces molécules étaient éliminées par la filière classique. Bon, il en reste quand même 20%. On pourrait dire autrement qu'il y a deux familles de molécules. Il y a les molécules hydrophobes et hydrophiles. Donc, les molécules hydrophiles ont une grande affinité avec l'eau et elles ne sont pas éliminées. Donc, c'est celles qui posent problème. Pour les autres, on peut les éliminer par adsorption, volatilisation, dégradation biologique. Donc, les molécules hydrophiles vont rester souvent en sortie de station.
Alors, vous, justement, à l'Institut européen des membranes, vous avez travaillé sur un projet de retraitement ambitieux qui s'appelle SAWER, c'est bien ça ?
SAWER, oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce projet-là, justement ? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec les retraitements classiques et ce que vous proposez ?
Alors, déjà, c'est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, donc un projet ANR. L'objectif, c'était de mettre au point un traitement tertiaire, mais pour un usage très strict, c'est-à-dire, qui n'est d'ailleurs pas encore autorisé vraiment en France, qui serait par exemple la recharge de nappe ou la repotabilisation directe, c'est-à-dire une eau qui serait envoyée directement pour la consommation des usagers en sortie de la station. Donc, c'est un projet qui proposait un traitement de pointe qui couple deux technologies, une filtration membranaire très poussée, qui s'appelle la nanofiltration, avec un pré-traitement d'ozonation. Donc là, c'est plutôt un traitement chimique d'oxydation qui permet d'éliminer les molécules les plus réfractaires.
Alors avec un traitement comme ça, on arrive à éliminer 100% des polluants dans l'eau ?
On ne va pas dire 100%, mais bien entre 98% et 99%, oui.
Et est-ce que ça existe déjà ? C'est pour l'instant pas mis en œuvre, un tel traitement ?
Alors si, des traitements, pas forcément celui-ci, mais des traitements poussés avec une technologie membranaire encore plus fine, on va dire, qui s'appelle l'osmose inverse. Donc à Singapour, par exemple, c'est déjà mis en œuvre pour de la repotabilisation. Après, en Suisse, la réglementation a déjà évolué par rapport à la nôtre et impose de traiter certains micropolluants en sortie de station. Donc là, toutes les stations ont été aménagées avec un traitement tertiaire, souvent qui utilise l'ozonation ou alors l'adsorption sur charbon actif et qui permet d'éliminer ces polluants.
Et l'ozonation, ça consiste en quoi ?
Alors, c'est une dégradation des molécules. On va venir attaquer les liaisons. Et à terme, si on pousse l'ozonation jusqu'au bout, on peut espérer minéraliser complètement en CO2 et H2O.
C'est-à-dire, quand on parle de minéralisation complète, le polluant, initialement, n'existe plus.
Oui.
Il a disparu de l'eau.
Voilà.
En revanche, quand on fait de la filtration membranaire, on sépare le polluant de l'eau, mais il est toujours présent.
C'est une séparation physique. Il nous reste ce qu'on appelle un rétentat ou un concentrat qu'il va falloir traiter. C'est pour ça que c'est bien de coupler ces deux technologies. Bon, l'ozonation, il faut quand même se méfier, c'est connu dans le domaine du traitement de l'eau, on génère des sous-produits qui peuvent être plus toxiques que la molécule mère. Donc il y a cet aspect aussi à gérer.
Alors ces traitements justement, donc là c'était expérimental j'imagine, est-ce que ça coûte cher? Bah, d'ailleurs, vous allez me répondre, c'est peut-être pas expérimental, mais est-ce que ça coûte cher et est-ce que ce serait généralisable?
Alors, en ce qui concerne le projet SAWARE, là, pour l'instant, c'était totalement à l'échelle laboratoire. On n'est pas du tout encore sur un procédé à l'échelle industrielle. Mais par contre, ensuite, je peux parler un petit peu de tout ce qui était une simple étape d'ozonation. Enfin, simple, c'est déjà très bien, très poussé hein, pour éliminer les micropolluants. Ce que je sais, c'est que par habitant, par an, ça rajoute une quinzaine d'euros sur la facture d'eau.
D'accord. Oui,
ce qui est quand même énorme. Abordable.
Oui. Oui.
Et du coup, avec ce type de traitement, ce serait possible d'envisager que l'eau à la sortie de la station, y compris en France, elle soit de nouveau consommée par les consommateurs? On pourrait la boire directement?
Alors ça, on en est capable, oui, ça c'est possible. Après, il reste l'acceptation sociale. On pourrait envisager ça, ou alors un autre usage qui est répandu dans d'autres pays, notamment en Australie, qui s'appelle la recharge de nappe ou d'aquifère. En fait, c'est très contraignant, vu qu'il faut que la qualité de l'eau dans un aquifère, celle qu'on injecte, doit être de qualité au moins égale. Donc, c'est-à-dire, c'est quasiment la qualité d'une eau potable. Donc, il faut un traitement très poussé, comme celui qu'on propose à l'Institut européen des membranes.
Et quand vous parlez d'acceptabilité sociale, est-ce que ça veut dire que les gens, les consommateurs, ne sont pas prêts à se dire que l'eau qui va sortir du robinet, elle provient d'une station d'épuration et c'était au départ des eaux usées?
Oui, voilà. C'est un des freins pour la reuse, en fait. C'est ce qui limite son utilisation, parce que la plupart des gens ont du mal à envisager de consommer une eau qui sortirait directement du cycle de traitement. Mais actuellement, les derniers sondages montrent une amélioration de cette acceptabilité.
Est-ce que, justement, comment on peut sensibiliser les gens? Je sais qu'à l'Institut européen des membranes, en collaboration avec Ecosec, qui est une entreprise locale sur les toilettes sèches, ils ont créé des vignes qu'ils ont... l'irrigation se faisait... Alors là, c'était carrément avec des urines ou... est-ce que ce genre de petite initiative très expérimentale peut contribuer à une meilleure acceptation sociale, pardon?
Oui, mais je crois aussi qu'il faut... faire des activités pédagogiques autour de ça. Il faut faire de la sensibilisation auprès du grand public. Il faut parler de la reuse et de rendre confiance aux populations. Parce que c'est un problème mondial, en fait.
Oui, justement, donc là, cette réutilisation des eaux usées, elle pourrait nous permettre de couvrir quel pourcentage de nos besoins en eau?
Alors, je ne sais pas exactement, mais je sais que si on regarde... Le secteur le plus consommateur d'eau à peu près partout, c'est l'agriculture. En France, si on regarde les besoins en eau pour l'agriculture et ceux que pourraient fournir les eaux usées, je pense qu'on n'est pas loin des 80%. Mais actuellement, on doit en utiliser à peine 1%.
Donc, c'est-à-dire que 99% de l'eau qui est utilisée pour arroser les plantations en agriculture, c'est de l'eau potable, celle qu'on a, nous, au robinet, pour la boire, par exemple?
C'est au moins celle de l'eau en surface, des réserves, ça peut être le Rhône, la Garonne. Donc c'est de l'eau qui est beaucoup moins chère,
oui.
En fait. Il y a aussi un problème du prix de l'eau. L'eau n'est pas assez chère, du coup, pourquoi aller vers la réutilisation qui a quand même un coût, alors qu'on n'est pas encore aussi devant une situation de stress hydrique assez marquée pour que ça puisse se démocratiser?
Alors justement, on emploie le conditionnel dans pas mal de nos questions depuis tout à l'heure, parce que finalement la France, elle est assez en retard par rapport à ces questions. Pourquoi? D'après vous, justement, on parlait de la réglementation stricte. Elle est vraiment plus stricte qu'ailleurs, et qu'est-ce qu'elle impose finalement, cette réglementation en France?
Alors, elle est stricte. Elle est plus stricte que dans certains pays, mais en Europe, on a quand même peu de pays qui ont développé la reuse, et souvent pour des problèmes de réutilisation. Alors elle impose de monter des dossiers administratifs très contraignants. Elle impose un suivi périodique sur certains paramètres qui peuvent engendrer des coûts. Donc c'est des procédures souvent très lourdes qui freinent un peu l'expansion de la reuse.
Et chez nos voisins européens, comment ça se passe, ceux qui sont peut-être en capacité de l'utiliser davantage?
Alors, chez nos voisins européens, donc le leader en Europe, c'est l'Espagne, qui est vraiment loin devant nous. Après, en Europe, je pense qu'il y a l'Italie, le Portugal, la Grèce, Chypre, qui pratiquent la reuse et qui l'encadrent. Et puis, jusqu'à maintenant, on n'avait pas de réglementation européenne. Ça freinait aussi le développement de la reuse, parce qu'en fait, on avait un problème d'homogénéisation de la réglementation. Chaque pays avait sa réglementation. Et là, depuis, il y a eu une proposition en 2018 qui vient d'être acceptée par le Parlement. Donc, on va avoir une réglementation européenne pour la réutilisation des eaux usées, mais uniquement pour un usage agricole pour le moment.
D'accord. Et vous avez parlé du cas de Singapour. Il y a vraiment des leaders mondiaux qui sont reconnus dans la reuse?
Oui, alors notamment Singapour, qui était... Donc là, c'est nécessité fait loi. Hein. C'est une densité de population très, très élevée. Donc un manque de ressources en eau. Ils ont dû se tourner vers la réutilisation des eaux usées. Et en plus de ça, ils ont beaucoup communiqué autour de cette opération. Ils ont fait beaucoup de campagnes de sensibilisation auprès du public. Donc, c'est très bien accepté. Et en effet, eux sont à peu près les leaders dans ce domaine-là. En Namibie aussi, la capitale de la Namibie utilise des eaux usées traitées pour la potabilisation directement depuis 30 ans déjà, je crois. Donc, voilà, c'est des pays qui sont assez leaders dans ce domaine.
Et ouais. Les pays leaders, alors, sont des pays qui sont plus confrontés que nous à un problème de ressources en eau.
Oui.
C'est ce qui a motivé justement cette adaptation et le fait de se tourner vers la reuse.
En Namibie, ils ont très peu de pluie et beaucoup d'évaporation. Donc, ils sont face à une sécheresse intense.
Eh bien, merci beaucoup, Julie Mandré, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Donc, vous pouvez boire et reboire cette interview en podcast dès demain sur Divergence FM et dès vendredi sur le site de l'Université de Montpellier. Et on passe à notre séquence reportage, direction Supagro. Benjamin Perret est directeur de recherche CNRS. Avec sa collègue Laurence Marquez et leur équipe, ils ont été les premiers à séquencer le génome du lupin blanc. Une réussite qu'ils doivent en partie à leur chambre de culture qu'ils nous font visiter.
Oui, qu'est-ce que vous voyez?
Un iceberg droit devant!
Bonjour, je suis Benjamin Perret, je suis directeur de recherche CNRS ici, donc au laboratoire biochimie et physiologie moléculaire des plantes.
On est près des chambres de culture et on entend un bruit de fond. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ce bruit?
Oui, on est dans une halle technique où on a des chambres de culture et en fait ce qu'on entend c'est le bruit des systèmes de ventilation qui permettent de contrôler en fait la température à l'intérieur de ces chambres de culture.
On va voir alors. Donc là, on est dans une petite pièce. Combien ça fait?
Peut-être une douzaine de mètres carrés à peu près.
Donc qu'est-ce que vous y faites dans ces chambres de culture?
Donc ces chambres de culture, elles sont équipées de bacs qui nous permettent de faire de la culture hydroponique, c'est-à-dire qu'on fait pousser les plantes dans de l'eau, en fait dans un milieu nutritif qui est à base d'eau, dans lequel on apporte tout ce qu'il faut pour que les plantes puissent pousser. Et on peut contrôler justement ce milieu et voir quand on fait varier certains éléments, comment la plante réagit.
Là, la première chose que je peux dire, c'est qu'il fait assez chaud et qu'il y a des lumières assez blanches. Donc tout ça, c'est étudié pour les plantes.
C'est ça. Ces chambres, elles nous permettent de contrôler la lumière. Donc on a des éclairages LED qui nous permettent de délivrer la quantité de lumière qui est adaptée pour les types de plantes. Ici, le lupin blanc aime bien avoir plutôt pas mal de lumière. On est à 200 micro-Einstein, donc c'est la mesure de la lumière au niveau des plantes. Ça correspond bien au lupin. On pourrait monter un peu plus même. Et ensuite, on contrôle la température. On est à 25 degrés en journée. Et là aussi, ça correspond bien à ce qui permet au lupin de pousser confortablement.
C'est étudié en fait ce 25 degrés?
Oui, en fait, les températures de nuit sont plus basses. Le lupin aime bien avoir un peu plus de fraîcheur la nuit, donc on descend à 20 degrés. Il se trouve que dans ces conditions-là, le lupin pousse très très bien. Maintenant, c'est une plante qui va pousser dans le nord de la France, à des endroits où il peut faire beaucoup plus frais. C'est vrai que les plantes, la croissance est fonction de la température. Donc si la température est plus basse, les plantes vont pousser un peu plus lentement. Quand on monte la température, ça pousse un petit peu plus vite. Voilà, 25 degrés, c'est un bon compromis pour bien faire pousser nos lupins dans des temps tout à fait raisonnables.
Je vois qu'il y a un plafond en verre au-dessus de nous. À quoi il sert?
Alors le plafond, il sert, justement, on a deux ambiances en fait. On a une ambiance chambre qui est refroidie indépendamment de l'ambiance plafond où il y a les luminaires. Ça, c'est pour essayer d'avoir une température la plus homogène possible au sein de l'enceinte où il y a les plantes. Essayer d'éviter les gradients de température depuis les lumières jusqu'aux plantes.
Et il y a des LED blanches et des LED rouges.
Alors en fait, on voit pas bien à l'œil, mais il y a plus que ça. On a un spectre qui est bien précis, c'est-à-dire l'ensemble des longueurs d'onde qu'on utilise. En réalité, le spectre qu'on a ici, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de rouge et un petit peu de vert. L'objectif, c'est de donner la lumière dont les plantes ont besoin, c'est-à-dire le rouge et le bleu, et un petit complément de vert dont les plantes n'ont pas besoin, mais qui permet pour l'œil de l'utilisateur d'avoir une couleur naturelle comme celle du soleil.
En face de moi, il y a une petite vingtaine de plants, mais il n'y a pas de terre.
C'est ça, il n'y a pas de terre. Tous ces bacs, on a des systèmes automatisés où on peut remplir avec de l'eau qui est de l'eau osmosée. Donc c'est une eau qui est dépourvue d'un maximum de choses. Elle est la plus pure qu'on peut avoir. Et ensuite, c'est nous qui venons amener tous les nutriments dont la plante a besoin. Donc de l'azote, du phosphore, du potassium, etc., etc. Par exemple, on sait que nos lupins, quand on leur enlève l'apport de phosphore, ces lupins vont créer des racines, qu'on appelle les racines protéoïdes, qui vont justement leur permettre d'être plus efficaces pour récupérer du phosphore. Donc nous, on peut jouer comme ça avec les nutriments et induire des réponses de la part de la plante. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de comprendre ces réponses chez le végétal.
Quel est l'avantage de ce système-là ?
L'avantage de ce système, c'est qu'on peut accéder aux racines très facilement. C'est sûr que si on fait pousser les plantes en terre, dès qu'on va vouloir regarder les racines, ça va être très destructif, on risque d'abîmer les racines. Donc on a développé ces systèmes pour pouvoir avoir un accès très facile aux racines. Mais pas seulement, on veut aussi avoir un système très contrôlé. Ces chambres de culture, on contrôle la lumière, l'humidité relative, la quantité de lumière et la photopériode, c'est-à-dire la durée de lumière. On contrôle finalement tout un tas de paramètres, alors que si on était en champ, on aurait beaucoup plus de variabilité. Donc ce serait beaucoup plus dur pour nous d'avoir des conditions qui sont finalement très homogènes.
Est-ce que ça permet aux plantes de pousser plus rapidement aussi ou pas du tout ?
Alors comme on est dans des conditions qu'on essaye d'avoir optimales, elles vont plutôt bien pousser. Mais le but, c'est pas qu'elles poussent le plus vite possible, hein. C'est vraiment d'avoir des conditions qui soient toujours les mêmes.
Juste à côté, là, on voit, donc, c'est les mêmes plantes, c'est des lupins aussi. Elles sont dans un autre milieu.
Alors c'est les premières étapes. On les fait germer sur un substrat qu'on appelle la vermiculite, hein, que les gens qui jardinent un peu doivent connaître. On peut mettre les graines dedans, on les arrose, ça garde l'humidité. Et une fois qu'elles ont germé, on les dégage très facilement sans abîmer la racine et on les bascule dans notre système en hydroponie. Donc c'est vraiment pour pouvoir faire une germination très contrôlée, très facile.
On voit qu'il y a des plants qui sont sous cloche. Pourquoi est-ce qu'ils sont sous cloche, ceux-là ?
Donc ceux-là sont sous cloche parce qu'on les a greffés il n'y a pas très longtemps. Donc on a associé une partie racinaire d'une plante particulière à la partie aérienne d'une autre plante, pour étudier la signalisation en fait entre les racines et les feuilles. Au moment où on fait la greffe, les feuilles ont un petit peu de mal à rétablir la circulation entre racines et feuilles, et donc on protège d'une évapotranspiration trop forte en les mettant sous cloche, ce qui leur permet de rétablir leur circulation interne et de pouvoir survivre à cette greffe.
D'accord, mais elles n'ont pas toutes la même tête là. Il y en a qui sont plus verte, plus grande. Pourquoi ?
Oui, alors c'est un contrôle en fait qu'on n'a pas du tout greffé. Et puis on a associé différents mutants en fait, différentes plantes mutantes avec des plantes d'autres plantes. Donc selon les associations qu'on fait, on va avoir différents phénotypes qui apparaissent.
Super. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ?
Je suis Laurence Marquès. Je suis maître de conférence à la Faculté des sciences à l'Université de Montpellier. Et donc, mon laboratoire de recherche, c'est le laboratoire BPMP. Et je travaille dans l'équipe adaptation du système racinaire et plasticité du système racinaire.
Et donc, sur le lupin aussi ?
Et sur le lupin, oui, bien sûr.
Combien de plantes vous pouvez faire pousser dans un petit espace comme ça ?
Alors là, on a 8 bacs. Chaque bac peut contenir environ une centaine de plantes. Donc, environ 800 plantes par chambre. On a 3 chambres. Donc, grosso modo, on est à 2500 plantes au total, qui nous a permis, par exemple, pour certaines approches en génétique, de cribler plus de 25 000 plantules dans des temps assez réduits en utilisant ces systèmes donc, qui ont été développés pour mener ce genre d'approche, justement.
Vos plants, vous les gardez combien de temps ? Ça dure combien de temps, une culture ?
Alors, le cycle du lupin est assez long. Il va durer 6-8 mois. Mais c'est vrai que nous, pour étudier ces racines, il nous faut 2-3 semaines, puisque ces racines sont produites très rapidement par les plantes. Donc, en 2-3 semaines, on arrive tout à fait à voir la mise en place de ces racines protéoïdes. Elles sont produites, elles sont fonctionnelles, on arrive à les caractériser, les identifier. Donc on fait beaucoup de cultures dans des temps de l'ordre de 2-3 semaines.
Là, les 3 chambres, elles sont destinées uniquement aux recherches sur le lupin.
Voilà, elles ont été financées dans le cadre d'un projet donc de l'ERC, hein, le Conseil de la Recherche Européenne, qui s'appelait Lupin Roots, et donc à hauteur de 400 000 euros, qui a financé ces chambres de culture pour ce projet spécifiquement dédié à comprendre la formation de ces racines chez le lupin en réponse à la carence en phosphate.
Vous vous occupez de l'aspect recherche. Il y a quelqu'un qui s'occupe spécifiquement de contrôler les chambres, c'est-à-dire de contrôler tout ce dont vous parliez, la lumière, l'hydrométrie.
Oui, effectivement. Donc, pour mener ces recherches, on a du soutien technique dans l'unité. Donc, on a une personne qui est responsable de nos installations, qui s'appelle Hugues Baudot, qui m'a aidé, en fait, pour, depuis la conception de ces chambres de culture, la réalisation d'un cahier des charges technique très détaillé, La mise en place et aujourd'hui le suivi, l'entretien de ces chambres de culture et de les maintenir en fait en fonctionnement quasiment 100% du temps, et on n'a pas eu beaucoup de problèmes dans ces chambres de culture.
Vous me disiez tout à l'heure que c'était les plus modernes du bâtiment. Ça fait combien de temps qu'elles ont été construites ces chambres-là ?
Alors elles ont été construites en 2016 et c'est vrai que c'est les dernières qui ont été construites ici à BPMP, mais on a des installations qui datent de plus de 10 ans pour certaines. Récemment, on a fait un gros travail pour basculer toutes nos installations en LED de façon à économiser un maximum d'énergie pour l'électricité qu'on utilise pour la lumière, mais aussi l'électricité qu'on utilise pour refroidir, puisque les LED génèrent beaucoup moins de chaleur. Donc il y a un vrai travail de modernisation de ces chambres de culture dans l'unité.
Ce Lupin, en fait, qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Pourquoi est-ce qu'on lui consacre comme ça 3 chambres de culture ? Vous avez parlé de ses racines, mais on peut peut-être en dire un peu plus.
Oui, en fait, la particularité du lupin, c'est que c'est une des rares plantes cultivées qui produit ces fameuses racines qu'on appelle les racines protéoïdes et qui lui permettent de récupérer le phosphate beaucoup plus efficacement que les autres plantes. Et il faut savoir que le phosphate, c'est un engrais, hein, au même titre que l'azote, au même titre que le potassium, dont les quantités sont par contre limitées à l'échelle de la planète et qu'on utilise en très grande quantité. Donc l'intérêt du lupin, c'est qu'il a besoin de moins de phosphate pour pousser. Et si on arrive à comprendre comment il fait ses racines et comment ses racines l'aident à utiliser le phosphate de façon plus efficace, bien peut-être on pourra l'utiliser pour d'autres espèces, d'autres cultures, et du coup économiser le phosphate. Donc l'objectif, c'est ça, vraiment, c'est de comprendre des mécanismes de développement, de mise en place de racines chez la plante, pour ensuite peut-être essayer d'améliorer les autres plantes.
Et pour plus d'informations sur les travaux de Benjamin Perret et le séquençage du lupin blanc, rendez-vous sur la page de l'émission La Croisière s'amuse sur divergence.org. Et c'est l'heure maintenant de parler des vedettes avec Amrine. Bonjour Amrine.
Bonjour Lucie.
Et cette semaine, nous parlons quinoa avec le projet de start-up d'un chercheur du CIRAD, c'est bien ça ?
C'est ça. Il s'agit de Didier Basile, qui travaille sur la biodiversité agricole pour des plantes d'intérêt alimentaire et en particulier sur le quinoa.
Alors ce chercheur, il parle d'un constat, c'est bien ça ?
C'est ça, le constat que l'érosion de la biodiversité fait aujourd'hui peser un risque important sur l'agriculture. En effet, l'alimentation mondiale repose sur un socle fragile avec seulement 4 espèces majeures. Le riz, le maïs, le blé et la pomme de terre, qui fournissent plus de 60% des calories consommées par les humains. Pour fournir un haut rendement de ces espèces, elles ont en plus subi de nombreuses sélections qui les rendent moins riches d'un point de vue nutritionnel, d'où l'intérêt de développer d'autres espèces.
Et parmi les espèces sous-utilisées, le quinoa a été identifié dans les années 90 par la NASA comme un super aliment.
C'est ça, un super aliment et même un alicament, autrement dit un aliment qui soigne. Pourquoi ? Parce qu'il ne contient pas de gluten, un souci quotidien pour les cœliaques, c'est-à-dire les allergiques au gluten. Il représente 1% de la population mondiale et les intolérants 10%. Pour eux, la vigilance est un impératif dans le choix de leurs denrées alimentaires, même courantes, avec des difficultés à combiner aliments sans gluten, qualité nutritionnelle et prix raisonnable. Outre des farines pauvres, riz, maïs, sur le plan nutritif, la panification, c'est-à-dire la fabrication du pain sans gluten, nécessite aujourd'hui des additifs qui compliquent la formulation de la recette et peuvent être préjudiciables à la santé en générant des effets secondaires indirects. C'est de ces constats que naît le projet QuinoaDiv visant à valoriser la richesse nutritionnelle du quinoa.
Et ce projet, il est en cours de développement avec la faculté de pharmacie de Montpellier.
Ensemble, ils ont déjà pu obtenir la preuve de concept d'une formulation très innovante appelée Mix Panification qui contient plus de 75% de farine complète de quinoa quand les concurrents intègrent au mieux 20% de quinoa à leur recette.
Alors on l'a compris, l'objectif est de répondre à la demande des malades cœliaques et des intolérants au gluten, mais pas seulement eux.
Non, ce produit s'adresse à tous les consommateurs soucieux de la qualité de leur alimentation. L'innovation ici réside dans la technologie alimentaire qui est mise au service de la santé pour développer une gamme de produits sans gluten à haute valeur nutritionnelle, facile d'emploi et à prix abordable.
Et elle permet en même temps de protéger et de valoriser la biodiversité.
Exactement. En s'appuyant sur plus d'une centaine de variétés de quinoa locales, il permet une valorisation de la biodiversité et pas seulement le développement d'une espèce à haut rendement.
Alors cette start-up, elle n'existe pas encore, mais elle en est où dans son développement ?
Le projet QuinoaDiv doit maintenant positionner son innovation sur le marché pour démarrer dès 2021 la production du mix panification et le distribuer dans les réseaux spécialisés. A noter que le porteur de ce projet est déjà reconnu internationalement comme une référence mondiale du quinoa auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et qui compte bien là-dessus pour tisser des alliances avec d'autres entreprises vertueuses du domaine. Nous ne pouvons qu'envoyer toutes nos bonnes énergies à cette innovation militante pour une agriculture durable et respectueuse de la biodiversité. et qui promeut, il faut le noter, la responsabilité sociale, celle de réduire la fracture sociale et économique des cœliaques et leur permettre d'accéder à une alimentation saine et durable.
Merci beaucoup, Amrine. La Science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour parler biodiversité animale, cette fois-ci. D'ici là, bon vent et amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ses mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.